RMC, les grandes gueules.
C'est Alexander Kerry qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Journaliste indépendant, co-auteur du carnet de bord de la résistance ukrainienne.
Vous travaillez à Kiev indépendante. Expliquez-nous de quoi s'agit-il.
Alors, c'est un organe de presse libre et pour le coup indépendant, dans le sens où c'est les journalistes qui possèdent ce journal. On fonctionne sur un mode de financement à partir de dons, alors qu'il n'est pas un paywall comme pour beaucoup de médias. On fonctionne, c'est pas très novateur en soi, hein, simplement c'est novateur pour l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est le même système que pour le Guardian, dans le sens où on ne coupe pas l'accès aux articles pour les lecteurs, mais en revanche, si les lecteurs apprécient ce qu'on fait, eh bien, ils sont les bienvenus pour eh bien, nous aider.
Voilà. Et qui alimente ce journal, des journalistes ukrainiens?
Ces journalistes ukrainiens, alors il y a un peu de tout, on a des Canadiens, des Ukrainiens, notamment... On a aussi une japonaise. C'est une équipe cosmopolite, voilà, avec des parcours extrêmement différents. Mais j'imagine que les gens pourront le lire dans le livre et qui aussi ont tous écrit ce livre-là.
Le voyage de Macron hier était important ou pas?
Il était important. Il était important parce que symboliquement, ça a été très bien reçu. Maintenant, aujourd'hui, on attend. On attend que les paroles soient suivies par des actes. Et on attend en fait finalement de recevoir. Je vois effectivement cette photo qui a fait le tour du Twitter.
Alors, écoutent sur MC Story, c'est la photo où Emmanuel Macron souriant enlace Zelensky, semble lui glisser un mot à l'oreille. Et le président ukrainien semble quand même beaucoup plus sur son quant à soi et moins enthousiaste.
Ça résume les relations entre les deux hommes. Ça résume les relations entre les deux pays aussi, parce qu'il y a un peu de pas de méfiance, mais encore une fois, l'Ukraine attend de voir effectivement ce que la France peut lui apporter. On sait qu'aujourd'hui, en tout, il y a à peu près 18 canons César, si je ne me trompe pas, qui vont arriver. On attend de voir.
C'est vrai qu'il n'y a que 10% des promesses là qui sont arrivées pour
jusqu'ici, oui.
C'est ça. Hein.
Jusqu'ici, oui.
Et parce que, en fait, c'est le mot. Il ne faut pas humilier la Russie. Ça a déplu aux Ukrainiens. Est-ce que Emmanuel Macron s'est expliqué hier? Est-ce que ça y est, le malaise est dissipé?
Le malaise prendra du temps à se dissiper, dans le sens où aujourd'hui, je dirais que c'est pas à l'Ukraine de négocier à la Russie, mais ce sera plutôt à un moment donné à la Russie de négocier avec l'Ukraine. Il faut pas inverser les rôles. Et je pense que ce qui est très très mal reçu à ce niveau-là, encore une fois, c'est dans l'idée d'humiliation. On parle d'un pays, donc l'Ukraine, qui a été pendant des décennies et des siècles, pour le coup, la colonie de la Russie. Donc, qui a subi le génocide du Holodomor, qui a subi énormément de massacres de la part de la Russie. Donc, entendre ça et faire passer la Russie comme une espèce de victime de l'histoire de ce côté-là, ça passe très mal.
C'est peut-être juste la peur d'une guerre mondiale pour laquelle il a dit ça. Parce que humilier la Russie, c'est peut-être une guerre mondiale. Et est-ce que
je crois qu'on peut.
C'est plutôt dans
une
guerre nucléaire.
Une guerre nucléaire.
Est-ce qu'on doit risquer la fin du monde, quoi?
Alors, il y a deux choses. D'une, quand on dit humilier la Russie, c'est est-ce qu'on humilie le peuple russe ou Poutine? Le problème, c'est que c'est assez vague.
On est d'accord.
C'est assez vague. Et aujourd'hui.
En même temps.
Non, mais la France, c'est là.
Mais pour l'instant, pas nécessairement.
Allez-y. Non, c'est plus.
Pas parler en même
temps. Il y en a un qui peut appuyer sur le bouton.
La question, c'est pas seulement d'une frappe nucléaire. Effectivement, c'est la question d'une frappe nucléaire tactique. Maintenant, le problème, c'est que depuis le début, à chaque fois que les puissances occidentales envoient des armes, Poutine brandit cette menace. Est-ce que cette menace est réelle ou pas? On ne sait pas. Sauf qu'aujourd'hui,
est-ce qu'il faut appliquer le quoi qu'il en coûte, quoi.
Oui, mais aujourd'hui, c'est l'Ukraine. L'Ukraine vit dans ce quoi qu'il en coûte.
Oui, oui.
On connaît en Ukraine le coût de ce quoi qu'il en coûte. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être aussi, parce que la peur est l'arme préférée des Russes aussi. Ils jouent énormément là-dessus.
Oui, et sur l'import de force.
Voilà.
Et pendant très longtemps, on a eu peur de Poutine. Peut-être qu'il est temps de plus avoir peur de Poutine.
Exactement. Et je pense que c'est aussi ce que l'Ukraine peut aussi montrer au monde, les Ukrainiens, les Ukrainiennes et les Ukrainiens aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut peut-être aussi. Arrêter un peu d'avoir peur de la Russie à ce niveau-là.
Mais trois dirigeants européens qui vont hier à Kiev, c'est un symbole, c'est fort, c'est justement montrer à Poutine que même sur un terrain de guerre, trois présidents, et pas des moindres, l'Italie, l'Allemagne, la France...
Même à rajouter la Roumanie.
La Roumanie aussi. Je veux dire, c'est courageux. Moi, en tant que Français, je suis fier de voir que mon président va... sur un terrain aussi dramatique de guerre que l'Ukraine, moi j'en suis fier et je trouve que c'est une bonne chose et c'est aussi de montrer on n'a pas peur.
C'est bien qu'il soit venu. C'est bien qu'il soit venu et les Ukrainiens reconnaissent que c'est bien qu'il soit venu. Il est venu sans doute un peu tard par rapport à d'autres dirigeants. Si on pense par exemple à Boris Johnson qui arrive dans un Kiev désertique. parce que effectivement, eh bien, il y a toujours aujourd'hui hein, la menace des missiles qui plane sur Kiev. Voilà, c'est ce côté un peu tardif qui a été reproché à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le fait simplement que ces quatre dirigeants soient venus, c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, c'est tardif.
Ça n'empêchera pas les bombes de tomber. Hein. L'Ukraine n'a pas besoin de symbolique. L'Ukraine a besoin de solutions concrètes et rapides.
Non, mais c'est quoi,
pas de
c'est quoi la suite
la solution, ben, c'est ça la problématique.
La suite, c'est difficile de prédire. Moi, je ne suis pas.
C'est quoi la suite de justement de cette rencontre entre ces. Quand on sait que le matériel n'arrive pas, qu'il n'y a que 10% des promesses qui ont été tenues, est-ce que ce moment-là va déclencher quelque chose de plus concret pour aider l'Ukraine, quoi.
Mais ce qu'il y a de concret, pour le coup, on disait qu'effectivement la symbolique était pas importante. Ce qu'il y a de symbolique, c'est que le couple franco-allemand leader en Europe aujourd'hui dit clairement, on veut accélérer l'accession de l'Ukraine à l'Europe, à la candidature européenne. Ça symboliquement, c'est assez fort.
Accéder à l'OTAN.
Non, ça n'a rien à voir.
À un moment, oui.
On a tendance à confondre l'Europe et l'OTAN. Ça n'a rien à voir.
Il y a l'étape 1 et il y a l'étape 2. La problématique, c'est que si on tape en même temps. Vous savez, Tolstoï, je crois, disait on n'éteint pas le feu avec le feu, on n'éteint pas l'eau avec l'eau et on n'éteint pas la guerre avec la guerre. Quoi.
C'est un peu gonflé de citer Tolstoï quand on parle d'Ukraine.
Mais je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est pas la guerre. La solution, c'est qui peut parler à Poutine.
La diplomatie.
Qui peut parler à Poutine. Qui a suffisamment de pression diplomatique auprès de Poutine pour arrêter cette guerre. Enfin, quand je dis guerre, je devrais dire quasiment massacre.
La question de la diplomatie, je dis pas qu'elle doit pas arriver à un moment donné.
Prioritaire.
Je dis qu'aujourd'hui, la question c'est de régler les choses du point de vue militaire. Aujourd'hui, les batailles font rage dans l'est et le sud de l'Ukraine. Maintenant, arrêter cette guerre aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser des territoires à la Russie? Ça veut dire condamner une partie du peuple à quoi? À des viols de masse, à des massacres sans nom? Enfin, c'est absolument. Vous imaginez?
Gagner la guerre.
Voilà. Imaginez que vous laissiez 20% de la France. Un envahisseur qui cherche à éradiquer complètement cette culture-là. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est qu'il y a clairement, depuis le 24 février, un programme, et je sais que c'est un mot lourd, mais je pèse mes mots, un programme génocidaire qui est appliqué par la Russie. Voilà.
C'est-à-dire quand la Russie prend des territoires ukrainiens.
D'élimination de la culture ukrainienne.
Ces territoires et enlever la culture
Journaliste sur un média indépendant, comment vous avez accès aux informations dans les zones de combat, sachant précisément ce qui se passe? Comment vous faites-vous?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on a un très très bon reporter défense qui a très bon rapport avec les soldats sur place. On a aussi des rapports directs avec les soldats sur place. Il faut aussi comprendre que la plupart des gens qui travaillent dans cette rédaction aujourd'hui, eh bien, ont des amis, des proches qui sont aujourd'hui sur le front. Donc ça, les rapports sont assez simples et ce genre d'information est assez simple à récupérer. Après, on a aussi les témoignages des survivants ou des rescapés qui reviennent de ces zones-là, par exemple de Mariupol ou même qui sont passés de l'autre côté à Kherson, ou des gens qui ont encore de la famille, notamment à Kherson. Et tout simplement, eh bien, il y a aussi le fait d'aller simplement sur le terrain. Moi, je vais aussi régulièrement sur le terrain. Tout le monde va sur le terrain parce qu'on ne peut pas être journaliste sans aller sur le terrain.
Où est-ce que vous avez pu aller circuler?
J'ai été à Makariv, j'ai été au nord de Kharkiv jusqu'ici. Depuis le déclenchement, après, avant ça, j'étais en 2016. Je suis parti dans le Donbass, mais c'était beaucoup plus calme. Hein. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui.
Oui, mais on se battait déjà dans le Donbass en 2007. Les combats continuent. C'est d'ailleurs le reproche que fait Vladimir Poutine, c'est de dire on n'a pas réglé la question du Donbass. Les Ukrainiens ont continué de tuer les russophones. C'est ce que dit Vladimir Poutine. Ce qui a justifié, selon lui, l'invasion.
Ce qui n'a pas du tout justifié l'invasion, dans le sens où en 2014, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. En 2013, le Maïdan commence. En 2014, Poutine et les Russes et les services russes font en sorte de créer une espèce d'anti-Maïdan un peu partout, hein, à Kharkiv, à Odessa.
Maïdan, c'était le soulèvement populaire. Place Maïdan, où Poutine avait essayé d'installer un régime qui était pro-russe, pro-Moscou. Quoi. C'était le soulèvement populaire.
Effectivement, en fait, les détails importent. C'est-à-dire que Yanukovych, qui était effectivement pro-Moscou, avait tourné le dos finalement à un accord avec l'Europe. Une manifestation avait eu lieu. Yanukovych avait envoyé les Berkouts, qui sont des espèces de brutes sans nom, et ça avait dégénéré sur ce qu'on connaît aujourd'hui et le soulèvement du Maïdan et la révolution du Maïdan. Pour répondre à ça, Poutine a vraiment créé ces espèces de petits phénomènes, des épiphénomènes. À Odessa, à Kharkiv, à Donetsk, ça a pris à Donetsk. Et voilà, mais c'est j'ai entendu énormément de témoignages de journalistes qui y étaient qui m'ont très bien décrit comment les agents du FSB ont pris d'assaut la mairie de Donetsk, qui a installé un régime fantoche depuis au moins 2018 ou 2019. C'est plus les séparatistes qui sont, c'est l'armée russe. C'est pour ça, quand on parle de séparatistes aujourd'hui, non, ce sont des Russes depuis quelques années au moins.
Là, pour l'instant, il y a un problème de livraison d'armes, parce que comme la Russie, qui n'a pas réussi à prendre l'Ukraine et notamment Kiev, s'est rabattue sur le Donbass, faut quand même dire que Poutine a raté son premier objectif. Donc là, il concentre toutes ses forces dans le Donbass. Donc il y a un rapport de force qui est quand même plutôt à l'avantage de la Russie. Il y a difficulté d'acheminer des armes. La France, finalement, on en livre assez peu, hein, contrairement à ce qu'on dit.
C'est proportionnellement parlant.
Voilà, proportionnellement. Emmanuel Macron parle beaucoup, mais finalement, on est, je crois, le 13e seulement donateur en armes. Alors peut-être parce qu'on les a pas aussi, ça pose un autre problème. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, c'est la difficulté, la fragilité ukrainienne? Parce que les Russes progressent, certes assez lentement, mais ils progressent dans le Donbass.
Mais ils peuvent tenir.
Encore une fois, je suis pas demain, je suis journaliste pour relater des faits. Mais il y a une différence entre guillemets de logistique déjà, et il y a une différence déjà entre un pays agresseur et un pays agressé. Les Ukrainiens sont chez eux, et surtout il y a derrière toute une population qui les soutient, qui est consciente de la guerre et qui est consciente de l'effort de guerre, ce qui est quand même pas le cas des Russes aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, les populations qui sont touchées par les morts dans l'armée russe sont des populations très défavorisées en Russie. Donc c'est des bourgades, des Daguestans, des gens du Daguestan, des choses comme ça, qui sont pas nécessairement les élites de Moscou. La différence, c'est que effectivement en Ukraine, les gens ont envie de se battre.
La volonté russe, est du côté ukrainien.
Oui, exactement. Ça change beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui fait que le peuple russe, à un moment, ne s'insurge pas sur ce sujet? On a évidemment un certain nombre de réponses. La peur, la démocratie, c'est pas ce qu'il y a de plus établi en Russie. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, selon vous, le peuple russe ne dit pas mais stop, enfin sinon l'armistice, arrêtons les hostilités.
Je pourrais pas répondre. Je dirais qu'il y a un système informationnel à ce niveau-là qui a aidé à cette pensée-là. Mais encore une fois, je préfère être un peu précautionneux à ce niveau-là et prendre.
On aurait pu y croire à un moment donné.
L'Ukraine gagne la guerre, ça me paraît compliqué. La Russie gagne la guerre, c'est problématique. Qu'est-ce qui reste
pourquoi comme solution pourquoi ce serait compliqué
Parce qu'il y a à la tête de la Russie, il y a un mec dont je doute de la pathologie quand même psychologique.
Ça, t'as très peur. Quoi.
Moi, je pense que ce type est capable de tout et que son ego est supérieur à la valeur du monde.
C'est pour ça qu'il faut l'éliminer.
Voilà. Je pense que son ego est plus fort que la planète.
C'est peut-être pour ça qu'il faut l'éliminer, peut-être. C'est parce que
je n'avance pas nécessairement.
Politiquement.
Sans aller jusque-là, simplement, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de... encore une fois, la peur, c'est l'armée préférée des Russes. C'est ça, c'est que peut-être dépasser ça au bout d'un moment et se dire bon, certes,
c'est justifié.
Elle est justifiée.
Je veux dire, c'est quand même justifié. C'est pas toute cette puissance nucléaire.
Chacun se fera son avis, j'allais dire presque entre guillemets, choisira son camp. Mais lisez carnet de bord de la résistance.
Quand même, ce type.
Carnet de bord de la résistance ukrainienne, signé Alexander Kerry, entre autres.
Et toutes les
contributeurs,
et bien sûr, Bloquin et Maria Pablété aussi.
Voilà, aux éditions du Nouveau Monde. Merci Alexander d'être passé voir les GG.